Notre invité cette semaine, Cédric Laboret, président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. C'est à l'occasion notamment du Salon de l'agriculture qui a débuté samedi à Paris. On va évoquer donc le Salon de l'agriculture, bien sûr, mais plein d'autres sujets également. Cédric Laboret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter donc notre invitation aujourd'hui. Alors, vous n'étiez pas à Paris cette semaine. Vous, contrairement à pas mal d'agriculteurs, finalement, des pays de Savoie qui ont fait le déplacement.
Oui, bah, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont là-haut. Moi, j'y monte mercredi, parce que mercredi, on a la journée des Savoies.
On va y revenir, bien sûr, oui.
Je serai présent ce jour-là, mais les autres jours, non. Je reste ici.
Alors, c'est justement important, hein, cette journée des Deux Savoie qui a lieu mercredi. On va y revenir. Combien d'agriculteurs ont fait le déplacement cette année ?
Ben, je ne sais pas. Il y a au moins une centaine d'agriculteurs des Deux Savoie qui ont fait le déplacement. Il y a les personnes qui montent parce qu'ils ont des animaux. Après, il y a des personnes qui montent pour mettre des produits en concours. Alors, ça peut être sur des produits AOP-IGP, mais même d'autres produits. Puis enfin, il y a tous ceux aussi qui montent aussi faire découvrir nos produits à toute la France, en fait, puisque au salon, il y a des visiteurs d'à peu près toute la France. Donc voilà, plus ceux qui vont y monter, ben, pour le plaisir de monter au salon et de retrouver des connaissances qu'il peut avoir, des copains. Voilà, mais il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui globalement montent au salon de l'agriculture tous les ans. Ouais.
Et avec leurs bêtes aussi, pour certains.
Bah voilà, oui, on a des animaux qui sont montés dans plusieurs races, hein. Bien sûr en abondance en tarine, c'est nos deux races un peu emblématiques, mais aussi en race montbéliard. Donc voilà, on a des éleveurs qui montent avec plaisir leurs animaux, puis qui vont les comparer avec les autres animaux de France pour voir s'ils ont vraiment les meilleurs animaux ou pas.
Alors cette année, il n'y a pas de vache qui fait l'effigie du salon, hein, comme...
Non, c'est pas tous les ans, ça. c'est moins régulier, ça, quand même.
Eh oui. En quoi c'est important, chaque année, pour vous, agriculteurs, hein, d'être présent sur ce salon ?
Ben, parce que c'est quand même un vrai moment de rencontre avec le reste de la société, en fait. Le salon de l'agriculture, c'est un nombre de visiteurs incroyable. Et du coup, pour faire découvrir nos produits, nos savoir-faire, ça reste quand même des moments où on partage avec du grand public, on fait découvrir ce qu'on fait, on peut expliquer nos métiers, expliquer nos produits. Et du coup, c'est un moment hyper important pour ça.
Quelles sont les retombées derrière d'une telle vitrine comme ça pendant une semaine, hein? Ça dure jusqu'au 2 mars.
Bah, elles sont assez larges, les retombées. Il y a déjà tous ceux qui découvrent nos produits puis qui, du coup, vont en racheter derrière. Après, on a aussi des gens qui, parce qu'ils sont venus nous voir au salon, se disent, bah tiens, si on allait passer nos vacances dans les Savoies pour voir ce que c'est ce terroir, ce que c'est ce territoire. Donc les tombées sont assez variables, mais notamment sur les produits, c'est hyper important. Et puis après, ben, celui qui a un animal qui gagne un concours ou un vin, ou voilà, c'est quand même aussi gage pour le reste de l'année, notamment sur les produits agricoles, de mettre cette étiquette médaille d'or, par exemple, au Salon de l'agriculture. Et c'est aussi un gage de qualité et qui aide à vendre aussi les produits.
Et il y a besoin encore de et vous le ressentez, ce besoin de reconnaissance aussi, de valorisation, de mise en valeur en pays de Savoie?
Oui, mais de toute façon, la notoriété, la communication, c'est quelque chose qui se fait sur long terme, en fait. Il ne faut pas croire qu'on le fait une fois puis qu'après, ça sera à vie. Donc, il y a toujours besoin de recommencer, de réexpliquer... Pour toucher de nouvelles personnes. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a un besoin qui est permanent autour de ça. Oui.
Alors, on en vient justement à cette journée donc, qui aura lieu mercredi, cette journée des Deux Savoies. Chaque année, il y a une journée justement pour mettre en valeur un petit peu les différents produits, notamment des Deux Savoies, avec des concours, hein, des concours de la race d'abondance, des concours de la race tarentaise également. Comment ça va se passer concrètement cette journée ?
Bah, c'est une journée qui est assez chargée, donc déjà on a nos deux races qui sont en concours, une le matin, une l'après-midi. Et en fait, bah voilà, on a aussi le moment entre les deux concours où on fait ce moment un peu d'unité et de partage autour de, bien sûr, de ces deux races qui sont les deux races emblématiques, mais aussi de l'ensemble des produits avec aussi des agriculteurs, des représentants du monde agricole et des élus qui montent ce jour-là. Ou aussi c'est le moment où aussi on peut remercier nos partenaires, parce que voilà... Le salon de l'agriculture, c'est quand même un budget qui est important et si personne venait nous aider, on aurait du mal à se le payer. Donc voilà, c'est aussi un moment où globalement, on peut aussi communiquer autour de ça et partager autour de ça. Oui.
Et il y a aussi des messages que vous souhaitez faire passer aussi par rapport aux difficultés, notamment locales, auprès des politiques.
Oui, bah, c'est un vrai moment d'échange. Donc bon, après... globalement, heureusement qu'on n'attend pas le salon pour aller leur dire. Je veux dire, on les croise ici, donc autant leur dire ici. Mais c'est aussi un moment où on peut faire passer des messages, où on voit aussi des élus nationaux, par exemple. Et ça peut être aussi le moment de leur parler de nos problématiques. Alors, on a les mêmes problèmes que les autres ailleurs. Puis, on a aussi des problématiques qui sont un peu différentes chez nous.
C'est ça.
Je pense, bah, par exemple, au problème de la prédation, par exemple. On est quand même dans les départements les plus touchés. Des problèmes autour de la montagne, qui sont quand même spécifiques à nos territoires. Donc, alors après, on a les mêmes problèmes autour, j'en sais pas, du Mercosur ou autre.
Oui, voilà. Bien sûr.
Mais ces problèmes spécifiques-là, c'est aussi un moment où on est mis en avant et du coup, ben, voilà, nos messages portent des fois un peu mieux.
Et oui, tout à fait. On va y revenir un petit peu sur les différentes difficultés hein, auxquelles vous rencontrez au quotidien et régulièrement. Mais c'est vrai que voilà, en tous les cas, cette journée des Deux-Savoies, c'est vraiment important. Ces concours, c'est quoi l'objectif concrètement?
Ah ben pour ces races-là, c'est d'être capable de trier et de mettre en concours les différents animaux et de sortir quelle est la championne, la meilleure vache du lot. En fait, ces animaux, ils ont déjà été triés, c'est-à-dire que ceux qui sont là-haut, c'est les meilleurs de tous ceux qui avaient été inscrits. Et là, dans ce panel de meilleurs animaux, ben là, on va élire les grandes championnes qui seront mises à l'honneur ce jour-là. Ouais.
Alors, en dehors du Salon de l'Agriculture, Cédric Laboret, je voulais pouvoir revenir sur les élections dans les chambres d'agriculture qui se sont tenues récemment, disons. Alors, en Pays de Savoie, on sait que c'est de l'alliance, justement, entre, que vous conduisez d'ailleurs, entre la FDSEA et les jeunes agriculteurs, hein, qui est arrivé nettement en tête. Ça veut dire quoi, concrètement, pour bien comprendre, pour le grand public?
Et ben en fait, tous les agriculteurs de chaque département, alors nous des Deux-Savoie, ont reçu chez eux du matériel de vote. Donc chez nous, je crois que c'est 5700 personnes qui ont reçu un bulletin de vote et qui ont pu voter pour trois listes qui étaient en concurrence. Donc la liste FDSEAJA, la liste Confédération Paysanne et la liste Coordination Rurale, avec des programmes. On a fait une campagne électorale avec un programme, des actions qu'on souhaitait mener, notre vision de l'agriculture pour demain. Du coup, chaque agriculteur a pu choisir. C'est un scrutin à un tour. Hein, voilà. On vote en une fois et la liste qui arrive en tête gagne ses élections à la Chambre d'agriculture et du coup a la mission pour les 6 prochaines années de représenter l'agriculture du département.
Et c'est ça. Donc vous allez être certainement réélu vendredi à la présidence de cette Chambre d'agriculture, hein, c'est ça?
Oui, bah moi je serai candidat à ma succession. Voilà, la liste FDSEAJA a gagné, donc normalement...
Vous êtes logique en tous les cas de représenter voilà, justement cette...
Je serai candidat et j'espère que je serai élu normalement.
Et quels sont les objectifs hein, justement que vous vous fixez sur ces 6 prochaines années?
Bon, on en a mis plusieurs en avant, mais je pense qu'il y a un objectif qui il y a plusieurs objectifs. Premièrement, c'est déjà de continuer à communiquer envers le grand public, parce qu'on est quand même un territoire qui accueille beaucoup de population, et du coup, faire connaître l'agriculture à cette population, faire connaître ce qu'on fait, pourquoi on fait ces métiers, pourquoi des moments les vaches sont sur les routes, pourquoi, voilà. Donc ça a été un élément important qu'on a souhaité remettre en avant cette fois-ci et qu'on avait déjà mis en avant le coup d'avant. Il y a un vrai travail aussi à faire autour de l'eau. Ça, on l'a mis comme enjeu prioritaire, mais même si on est sur un territoire de montagne et que jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'habitude de stocker de l'eau, on sait que demain, pour être capable de passer le changement climatique, si on veut accompagner les exploitations face au changement climatique, il faudra de l'eau. Et sur nos territoires, il faudra se mettre un peu à la stocker, même si ce n'est pas une habitude. Donc, être capable de stocker de l'eau et de permettre l'accès à l'eau pour les agriculteurs, ça c'est aussi une des grandes priorités qu'on a mis en avant. Et puis, ben voilà, accompagner les agriculteurs face au changement climatique. Donc l'eau, c'est une des parties, mais il y en a d'autres. Et vraiment accompagner ce changement climatique qui est quand même là et qui est une réalité pour les agriculteurs. Autant peut-être que pour certains, c'est pas quelque chose de très concret, mais quand on est agriculteur, le changement climatique, on le vit tous les jours sur sa ferme, mais ça, il faut qu'on trouve des solutions. Donc ça, c'est un des points qu'on a aussi souhaité mettre en avant. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais si on veut un peu résumer les principaux, je pense que c'est
ça. Eh oui, c'est ça. L'eau, c'est vraiment une problématique locale que vous rencontrez, notamment vous, ici en montagne.
Oui, ben, on a les mêmes problèmes que les autres. Et puis, en fait, le fait que l'eau tombe moins sous forme de neige, quand même, globalement, ça veut dire que nos sources, elles tarissent beaucoup plus vite. Et du coup, en fait, l'eau qui était stockée avant sous forme de neige et de glace sur nos territoires, maintenant, elle n'est plus du tout sous ces formes-là. Elle tombe majoritairement en pluie. Et du coup, ben, si on n'est pas capable de la stocker à des moments, elle nous manquera à certaines périodes de l'année. malgré tout ce qu'on peut raconter, malgré le fait que on faut aussi que le sol il soit capable d'accepter l'eau, faut mettre beaucoup de choses en place, mais quand ça s'arrête de pleuvoir au mois de juillet, au mois d'août pendant deux mois, si on n'a pas d'eau de stocker, on n'a quand même pas de miracle à faire, donc... On a un vrai travail à faire autour de ça.
Et oui, c'est ça. On se souvient également dans les autres sujets et autres problématiques, il y a 6 ans, lorsque vous succédiez à Patrice Jacquin, vous parliez de la nécessité d'attirer davantage les jeunes aujourd'hui vers ces métiers, justement, et d'avoir une exploitation. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez avoir réussi ou qu'il y a encore du travail, justement, là-dessus ?
Il y a encore du travail à faire. Déjà, on a fait déjà plusieurs actions. Et notamment, on a commencé à mettre des actions en place au Forum des métiers, par exemple, où on est présent maintenant pour expliquer les différents métiers autour de l'agriculture et attirer de nouveaux jeunes envers nos métiers. Et je pense que c'est aussi beaucoup en lien avec la communication. Je pense qu'à un moment, il faut aussi être capable de communiquer positivement sur nos métiers. Moi, à titre perso, j'ai une exploitation agricole, je suis très content d'être agriculteur. J'en vis bien, je suis heureux dans mon métier. Et ça aussi, il faut être capable de faire passer ces messages. Bien sûr qu'il faut parler de ce qui ne va pas, mais aussi être capable de rappeler ce qui va bien dans notre métier, pourquoi on le fait, pourquoi on est heureux de se lever le matin et de le faire. Et du coup, transmettre ça à des jeunes pour faire en sorte que des jeunes qui soient... pas issus du milieu agricole. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié des jeunes qui s'installent sur nos départements qui ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs. Donc, c'est comment on va chercher tous ces jeunes qui, aujourd'hui, ne sont pas dans le milieu agricole pour leur donner cette envie. Alors, bien sûr, il faut les accompagner, il faut les former. Ça, c'est hyper important. Mais comment on leur donne envie de faire ces métiers-là ? Et du coup, on veut mettre en place aussi de nouvelles actions de communication, aussi bien envers les primaires, puisque voilà, pour leur expliquer ce que c'est notre métier et qu'ils sont sur un territoire où il y a des agriculteurs, mais aussi notamment aux jeunes fin de collège, où là ils sont à leur période d'orientation et où il faut être capable d'aller leur expliquer nos métiers, sinon naturellement ils n'y viendront pas parce qu'ils n'en auront jamais entendu parler.
Et oui, c'est ça. Et là-dessus, vous n'êtes pas forcément seul, vous êtes soutenu quand même, soutenu par le département notamment ?
Oui, bah les deux départements nous avaient accompagnés jusqu'à maintenant sur nos actions de communication. Ils sont toujours prêts à le faire. Donc voilà. Après, on leur a proposé aussi de mettre en place une structure pour faire la promotion des produits agricoles et du métier de l'agriculture. Donc ça, c'est à l'étude. On est en train de travailler dessus et on espère qu'on aura des moyens pour être capable justement de faire tout ce travail-là, qui est quand même un travail de fond. Et où les fruits, on les trouvera peut-être, on les récupérera peut-être d'ici une dizaine d'années, parce que des jeunes qu'on va aller voir en primaire demain, qui auront peut-être 7-8 ans, si à 22-23 ans, ils décident d'être agriculteurs, c'est peut-être parce qu'on aura été les voir à ce moment-là. Mais du coup,
et oui, c'est ça. Mais c'est tout un travail qui se fait finalement au quotidien et qui ne cesse de finalement de devoir se faire quelque part.
Je pense que la communication et la notoriété, c'est des choses, ça marche par la répétition. Donc si on veut être présent, il faut y aller régulièrement, il faut répéter nos messages, répéter ce qu'on fait, répéter ce qu'on est. Et c'est en faisant tout ça de façon régulière qu'on arrivera aussi à attirer des nouveaux candidats à l'installation et qu'on pourra renouveler les générations d'agriculteurs qu'on a renouvelées.
Et oui, c'est ça. Donc c'est très important ces actions que vous menez justement au quotidien là-dessus. Pour les jeunes, il y a toujours cette problématique de pression foncière agricole, du coût aujourd'hui d'une exploitation, et puis toujours cette problématique aussi du logement.
Oui, on est sur un territoire où les agriculteurs ils sont comme les autres, c'est-à-dire... les coûts des logements sont élevés chez nous. Il y a beaucoup de pression foncière, puisque aujourd'hui, on veut construire du logement, on construit des routes, on construit un tas d'infrastructures, et c'est toujours sur des terrains agricoles. Donc cette pression, elle est quand même énorme. Les exploitations, elles perdent de la surface tous les ans. Même si on a été capable de beaucoup réduire la consommation de foncier, elle reste encore importante sur nos territoires. Donc c'est quand même des enjeux, des problématiques à régler. Il faut qu'on soit capable de le faire. Mais si on se dit qu'il y a 50% des exploitants qui ont plus de 55 ans, ça veut quand même dire qu'on a la moitié des exploitations qui demain, dans les 10 ans qui vont arriver, vont changer de main, quoi. Donc on a un vrai enjeu autour de ça. On a tous les problèmes à régler de comment on accueille les jeunes, comment on fait en sorte qu'ils puissent venir vivre sur nos territoires parce qu'ils ne seront pas forcément issus de nos territoires. Mais ça, je pense que tout le monde doit arriver à nous accompagner pour régler ces problèmes.
Parce que ça...
On a le problème, bien sûr, pour nous, pour faire reprendre nos exploitations agricoles. Mais globalement, qui c'est qui entretiendra ce territoire demain ? Ça sera forcément des agriculteurs. Et qui c'est qui nourrira en partie ce territoire demain ? Ça sera quand même des agriculteurs. Donc chacun doit être capable de venir nous aider à faire en sorte de répondre aux problématiques qu'on peut rencontrer pour une installation.
Ce sont les principaux problèmes hein, auxquels vous êtes confrontés, ce qu'on a évoqué. Vous parliez de l'eau tout à l'heure. Là, ces problématiques justement de logement qui sont plus générales. Et puis également donc cette volonté et cette nécessité d'attirer les jeunes. Hein.
Oui, c'est les principaux écueils qu'on peut avoir, voilà. Donc, des moments, une impression d'être pas compris. Je pense que pour un exploitant, quand on voit certains projets de jeunes qui se sont retrouvés arrêtés parce qu'on a une association qui s'est mise en place parce que des gens méconnaissaient complètement les projets agricoles et sur le principe, on montait une association pour être contre. Mmh. Voilà. L'autre jour, l'année dernière, on a eu un problème sur une commune. Avec des jeunes qui voulaient s'installer en port plein air, voilà. Ils n'avaient encore pas commencé à. Ils n'avaient pas réalisé leur projet, qu'il y avait déjà des gens qui étaient contre, qu'ils avaient déjà commencé à aller mettre des tracts, qu'ils avaient déjà. Voilà, pour arrêter ces projets. Sur aucun fondement, tangible, c'était juste sur de la peur, du ressenti, voilà. Et malgré le fait qu'on ait essayé d'accompagner ces jeunes et puis d'aller. Communiquer auprès des voisins, on n'a pas été capable de faire changer leur avis. Du coup, eux, ils préféreront acheter leur porc sous cellophane que de l'acheter dans une ferme qui est à côté de chez eux. Je pense que faut faire des vrais choix, quoi. On peut pas dire nous on veut une agriculture locale à côté de chez nous, mais qu'elle soit à côté, mais quand même assez loin pour pas qu'elle soit vraiment à côté, quoi.
Et oui.
Il y a un moment, c'est où les agriculteurs ils seront autour de chez nous et on apprendra à vivre avec, ou alors les aliments qu'on aura, ils seront tous sous plastique, ils viendront tous par camion, par bateau. Et je pense que si on fait le lien avec ce qu'on peut entendre, mais les agriculteurs, ils ont du mal à comprendre qu'on arrive à faire un accord sur le Mercosur en disant on va faire traverser l'océan à des produits agricoles qui ont le droit de se produire avec des normes qui sont différentes de chez nous. Quand ils viennent d'ailleurs, tout le monde trouve ça normal et nous, on nous demande de faire beaucoup ici, alors qu'en fait, dans la réalité, on va demander aux gens de manger des choses qu'on ne nous accepte pas de nous faire produire. Donc voilà, il faut accepter les agriculteurs à côté de chez soi. Je pense qu'à un moment, ça, c'est une vraie nécessité. Et puis après, faut aussi que nos dirigeants ils fassent des choix un peu plus courageux.
Alors c'est vrai qu'on a tous encore en tête ces mobilisations d'agriculteurs, y compris ici en pays de Savoie avec les blocages des autoroutes. Est-ce que c'était donc il y a un an, c'était en janvier dernier. Est-ce que aujourd'hui vous avez sentiment que les choses ont quand même évolué, qu'il y a eu vraiment des améliorations par rapport aux revendications que vous espériez à l'époque?
En fait, c'est à partir de maintenant qu'on va savoir. La nouvelle loi, la PLOA, elle a été votée,
oui.
Cette fois par l'Assemblée et par le Sénat. Donc maintenant, c'est à partir de
la loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole.
Voilà. Donc c'est à partir de maintenant qu'on va voir si les choses se sont vraiment améliorées. Voilà. Nous, on va accompagner des gens à porter des projets. Est-ce que ce sera toujours aussi compliqué qu'avant ou est-ce que ça se sera amélioré? C'est à partir de maintenant qu'on va savoir, en fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On a eu des gouvernements sur courant alternatif depuis un an. Il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale qui ne nous a vraiment pas aidés. Et, du coup, il n'y a rien qui a pu être voté. Donc, la première loi qui est votée, c'est celle-là. Alors, il y a eu des petits arrangements, des petites améliorations, mais qui ne sont pas très significatifs pour l'instant. Et c'est à partir de maintenant qu'on va voir est-ce que le malaise du monde agricole a été entendu? Est-ce que la simplification, elle sera vraiment là? Voilà, c'est maintenant qu'on cherche et qu'on verra si on a des réponses, quoi. Pour l'instant, ça n'a pas été, on n'a pas touché du doigt des petits miracles qui peuvent nous dire, oui, quand même, il y a eu de nettes améliorations, il y a eu des petites choses qui avancent les unes à côté des autres. Et il faut voir si la loi, elle permettra de mettre vraiment en place ça ou pas, quoi.
Mais le fait qu'il y ait eu déjà cette adoption au Parlement, c'est déjà une bonne chose, déjà.
Ah ben oui, si ça peut limiter en partie les recours, si ça peut limiter la durée des procédures, si les gens peuvent travailler avec un peu de certitude, si vraiment on leur simplifie les choses au quotidien. Voilà, je pense que ça, c'est une vraie demande de la profession agricole. Et pour des choses qui sont des moments qui nous paraissent à nous être du bon sens. Et on espère que ce travail-là, il se mettra en place demain.
Alors, les agriculteurs, vous étiez également mobilisés hein, au mois de novembre, notamment pour protester contre l'accord de libre-échange, ce fameux accord, hein, vous en parliez, de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Où en est-on là-dessus aujourd'hui ?
Bah aujourd'hui, on a a priori l'Europe, enfin, Madame von der Leyen qui a validé ce projet. Après, maintenant, on est dans la phase où est-ce que la France, elle serait capable d'avoir une minorité de blocage pour faire en sorte que cet accord, il soit pas signé ? Voilà, nous, on espère là-dessus. Je pense que, après, c'est une prise de conscience que chacun doit avoir, quoi. Nous, quelque part, on se dit, pourquoi nous, on nous interdit de faire des choses alors que, globalement, les aliments qu'on va donner à manger à nos concitoyens, ça va être des aliments qui, eux, respecteront pas ces normes. Donc nous, pourquoi en fait on nous demande de les respecter si la nourriture de tout un chacun, elle ne le respecte pas ? Voilà, je pense que la question, elle est aussi simple et aussi bête que celle-là. Donc maintenant, au-delà de savoir si c'est bien que des denrées alimentaires traversent la moitié de la planète pour être consommées chez nous, alors que ces produits-là, on les a, ça je pense que ça peut premièrement poser question à beaucoup de monde. Mais même au-delà de ça, je pense que ça dépend beaucoup du modèle agricole qu'on veut demain. Enfin, je pense que au-delà du Mercosur, on a vu ce qu'a donné la période un peu de d'inflation chez nous. On a une filière bio qui a eu quand même de très gros soucis parce que globalement les gens s'en sont détournés. Même sur la plupart des produits sous signe de qualité, on a eu une vraie baisse de la consommation. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez net. Ça veut dire que quand on doit faire des choix majoritairement, quand les Français doivent faire des choix dans leur budget, ils le font d'abord sur l'alimentation, puis après ils le font sur le reste. Donc du coup, ben, nous, ça nous pose quand même question, quoi.
Et oui.
Est-ce que nous, on peut être montré du doigt toute la journée en nous disant « faudra que vous fassiez mieux, faudra faire ci, faudra faire ça ». Et puis, quand on doit faire des choix, on le fait sur ces produits alimentaires. Donc ça, c'est cette vraie question. On a demandé à des agriculteurs, il y en a qui ont joué le jeu, ils ont dit « on va produire avec des signes officiels de qualité ». On va produire, on va faire du bio, on va y aller, on y croit, on avance. Et puis dès que l'argent commence un peu à tirer, bah du coup c'est sur ces produits-là qu'on fait les premières économies.
Parce que concrètement, ça aura quoi comme incidence si aujourd'hui cet accord commercial était donc ratifié
Ça veut dire qu'aujourd'hui les frais de douane sur ces produits-là, ils seraient quasiment nuls. Donc du coup, nous on gagne dans un sens puisque on va sûrement aller leur vendre des voitures, on va aller sûrement leur vendre autre chose. Dans un accord, les deux parties doivent normalement être gagnants. Par contre, très concrètement, en face de ça, on va importer de la viande, notamment, ou d'autres produits. Et du coup, ça veut dire que ces produits, ils arriveront ici sans frais de douane. Et du coup, ils vont se retrouver en concurrence directe avec nos marques, avec nos produits à nous, quoi. Du coup, vous, demain, vous allez aller au supermarché, vous allez acheter votre plat cuisiné. Très concrètement, il n'y a personne qui va regarder de savoir si la viande qui est dans ce plat cuisiné, elle est d'Argentine, elle est de France ou d'où elle est. Et en fait, sans le savoir forcément, vous allez vous-même consommer un produit qui viendra de ces pays du Mercosur. Voilà, ça va être ça la réalité. Demain, vous n'allez pas avoir marqué en gros steak du Mercosur et puis steak français, ça ne sera pas marqué. Par contre, vous allez, tout le monde va consommer demain, soit parce qu'il va aller manger dans de la restauration hors domicile, soit parce qu'il va vous aller acheter un plat cuisiné, soit parce que vous allez consommer des produits déjà transformés. Quand vous allez consommer ces produits transformés, vous n'aurez pas une traçabilité très claire d'où viennent les matières premières qui ont fait ce produit-là. Et du coup, vous allez les consommer demain. Tout le monde va en consommer. Voilà, ça va être ça la réalité. Donc en fait, du moment que l'accord il est signé et du moment qu'on commencera les importations, derrière, il y a des gens qui feront des choix, notamment pour aller gagner un peu plus sur une boîte de lasagne ou sur autre chose, et on va importer les produits de ces pays-là. Je veux dire, aujourd'hui, très concrètement, déjà le fait d'avoir de faire le soutien à l'Ukraine, on laisse déjà rentrer des produits ukrainiens sans frais de douane, notamment du poulet. Eh bien aujourd'hui, majoritairement, quand vous allez acheter du poulet, quand vous allez acheter des nuggets, quand vous allez acheter des cordons bleus, quand vous allez acheter du poulet sous forme déjà cuisinée, vous allez acheter du poulet qui vient d'Ukraine. Mais très concrètement, quand vous l'achetez, vous ne savez pas d'où vient le poulet. Alors le poulet que vous allez manger le dimanche sur votre table, vous allez acheter un beau poulet label rouge, il n'y a pas de souci, celui-là il sera français. Mais ce que vous allez consommer toute la semaine comme poulet, celui-là il ne sera pas français. Et on aura exactement le même problème avec l'accord du Mercosur. Ce sera exactement pareil.
Et donc de grosses incidences pour l'avenir de l'agriculture locale, vraiment.
Bah oui, parce que nous, on se dit que plus on aura de produits qui rentreront en concurrence. Je veux dire, sur la viande, on commence seulement depuis 2 ou 3 ans à avoir des cours de la viande qui sont quand même montés et qui commencent à rémunérer les agriculteurs. Si on commence à faire rentrer de la viande à bas coût et en quantité importante des pays du Mercosur, ben, inévitablement, nous, le prix de la viande va baisser dans nos fermes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ?
Eh oui. Donc là, aujourd'hui, vous continuez de toute façon à vous mobiliser là-dessus, comme sur d'autres, d'autres sujets, notamment auprès du gouvernement ?
Oui, bah là, aujourd'hui, bon, on l'a vu, hein, ces jours-ci au Salon de l'Agriculture, notamment le président de la République a été interpellé là-dessus, la ministre, elle a été interpellée là-dessus. Je pense que nos parlementaires, ils ont aussi été interpellés là-dessus. Il y a une pression qui est mise. Après, voilà, je pense que... Au sein de l'Union européenne, tout le monde n'a pas les mêmes problématiques. Il faut quand même se rappeler qu'on est un des principaux pays agricoles de l'Union européenne et que du coup, ben, quand on met l'agriculture en monnaie d'échange d'un accord comme ça, un pays comme la France, c'est un pays qui est gêné par ça. Il y a d'autres pays en Europe, très, très clairement, qui importent la majorité de leur alimentation. Eux, de toute façon, ils se disent, ben, qu'elles viennent du Mercosur ou d'ailleurs, c'est moi mon problème. Par contre, s'ils m'achètent mes voitures, s'ils m'achètent... j'en sais rien, d'autres choses qui peuvent être mises dans l'accord, et ben eux, ils sont plutôt pour. Donc, avec qui on va être capable de construire cette minorité de blocage ? Ça, c'est une vraie question.
Et oui.
Ça, c'est une question qui est concrète. Et puis, qu'est-ce qu'on veut comme Europe demain ? Je pense que c'est aussi une vraie question. La politique agricole, c'était la principale politique de l'Europe, justement parce qu'au sortir de la guerre, l'Europe avait faim et qu'ils ont décidé de faire ensemble une politique agricole pour faire en sorte que l'Europe... soit capable d'être autosuffisante alimentairement, voire même d'être capable de créer des excédents. Donc cette politique, elle a quand même plutôt bien marché. On est quand même aujourd'hui, on a été capable de nourrir les Européens aujourd'hui, on est aussi capable d'exporter en partie notre production vers d'autres pays qui, eux, ont beaucoup plus de mal à produire. Et le changement climatique va encore accentuer ça. Parce que je pense qu'il faut quand même se dire qu'on va avoir, quand même avoir des régions dans le monde où avec le changement climatique, la production agricole va être de plus en plus compliquée. Donc il y aura de plus en plus besoin d'être capable d'aller accompagner ces populations-là à pouvoir se nourrir. Et du coup, mais à quel prix on va le faire, quoi ? Est-ce qu'on se dit que pour faire ça, il nous faut quand même des agriculteurs ? Et moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'il faut qu'on garde un nombre d'agriculteurs, qu'on essaye de garder un nombre d'agriculteurs encore important en France. Et du coup, pour faire ça, il faut quand même que les produits agricoles ils soient valorisés et que ce ne soit pas toujours la monnaie d'échange pour faire en sorte qu'on arrive à vendre des avions ou de l'électronique.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tous les cas, Cédric Laboret, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, hein, on rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Enfin, vous êtes candidat à votre réélection également pour les 6 prochaines années. Donc, ça sera vendredi. Merci à vous. Et donc, vous serez présent à la journée des Deux Savoies au Salon de l'agriculture à Paris ce mercredi.
Merci beaucoup.